Le débat du jour avec Michaël Ponge.
Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez dans RFI Soir. Des riches de plus en plus riches et des pauvres de plus en plus pauvres à travers le monde. La France compte-t-elle entre 5 et quasi 9 millions de personnes selon le calcul choisi qui vivent sous le seuil de pauvreté, quel que soit ce seuil retenu. Une certitude, le nombre de ceux concernés par le phénomène a augmenté d'1 million en 10 ans. Un peu plus de 14% de la population est pauvre aujourd'hui en France. Ces chiffres en tête, le mouvement ATD Quart Monde a lancé hier un appel international Stop à la pauvreté pour un monde libéré de la misère à l'occasion du centenaire de la naissance de Joseph Brzezinski, le fondateur de l'association que l'on connaît aujourd'hui sous le nom d'ATD. Et quand l'on dit pauvreté, on pense souvent d'abord au manque d'argent, aux difficultés financières, mais être pauvre, c'est aussi être seul.
Être pauvre, c'est pas avoir d'amis. Ne pas avoir de relation. Moi, quand j'ai un problème, j'ai des copains, je peux demander une voiture à quelqu'un. Enfin, je me débrouille parce que j'ai des tissus de relations. Je connais plein de gens. Les plus pauvres, eux, eh bien, ils connaissent pour tout que des gens, que des pauvres, et qui n'ont pas tous ces moyens que nous, on peut avoir pour continuer de vivre quand on a un petit souci, quand on a un petit pépin. Voilà, le manque de relations, le manque de... Voilà, donc, c'est une chose ne suffit pas pour sortir de la misère. C'est un ensemble de précarité.
Une chose ne suffit pas pour sortir de la misère, parole d'un volontaire d'ATD Quart Monde. Et pourtant, la France est le pays européen qui consacre la plus grande part de son PIB à la protection sociale, RMI, puis RSA, prime d'activité, minimum vieillesse, plan formation. Des dispositifs de plus en plus complets ont été mis en place au fil du temps, sans succès. Comment donc en finir avec la grande pauvreté? Les politiques publiques de lutte sont-elles un échec collectif? C'est notre débat de ce soir. Et pour en parler, deux invités, Marie-Arlette Grard, déléguée nationale d'ATD Quart Monde, bonsoir.
Bonsoir.
Et en face de vous, dans le studio de RFI, Michel Pouzol, député PS, membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation. Vous êtes un porte-parole de Benoît Hamon, le candidat de la gauche à la présidentielle. Bonsoir.
Bonsoir.
Je voudrais commencer avec vous, Michel Pouzol, car... avant d'être sur les bancs de l'Assemblée, vous aussi, vous avez connu la pauvreté, vous avez connu le RMI, la galère. Vous avez vécu notamment avec votre famille dans un cabanon, dans une forêt, en bordure de forêt, en banlieue parisienne. Une réaction à ce que l'on vient d'entendre, être pauvre, c'est aussi être seul.
Oui, tout à fait. C'est un des symptômes que l'on a affronté. La désocialisation va avec la pauvreté et c'est très rapide. Nous, on avait réussi à résister un petit peu par le sport que faisaient nos enfants. Donc, on avait une vie sociale qui était cachée où personne ne savait ce que nous étions réellement. Mais le reste, effectivement, vous commencez par vous cacher, par vous couper. Personne n'avait le droit de venir à la maison. Les enfants ne pouvaient pas faire venir leurs copains et copines jouer à la maison parce que c'était pas une vraie maison.
Une vie cachée, une vie coupée. Est-ce que vous avez senti à ce moment-là ce que l'on appelle une pauvrophobie, pour le dire comme ça?
Vous savez, quand on est tellement la tête dans le seau, pour parler vulgairement, quand les problèmes que vous avez résolus au quotidien sont tellement énormes par rapport à vos facultés à les résoudre, parce que si vous aviez un compte en banque rempli, c'est des problèmes de rien du tout, la plupart, je ne prêtais pas attention réellement à ça. Je l'ai plus ressenti quand j'ai commencé à émerger. À ne plus être tout à fait au fond de la nasse, et là oui j'ai commencé à sentir qu'il y avait effectivement reprendre conscience du monde qui m'environnait, de la société telle qu'elle était et de sa dureté. Mais moi je vous le dis, on a rencontré des gens qui étaient formidables, on a rencontré des associations, on a rencontré des assistants sociaux, on a rencontré des psychiatres, on a rencontré plein de gens qui étaient de plein de bonne volonté, des fonctionnaires dans des administrations qui les pauvres se battaient pour nous dépatouiller des dossiers qu'on comprenait plus. Donc oui, c'est la solitude, et en même temps, ce qui rompt la solitude, la seule chose qui peut le rompre, c'est ce que je viens de vous dire, les associations, les services publics, les services sociaux, et sinon, effectivement, c'est très difficile de s'adresser à quelqu'un et lui dire, voilà ma situation, voilà ce que je suis. Moi, j'ai des amis qui me disent, mais pourquoi t'es pas venu me voir à cette époque-là? Parce que j'en ai même pas eu l'idée.
Alors heureusement, des associations œuvrent pour sortir les gens de la galère, de la pauvreté, malgré tout. Marie-Alette Grard, pauvreté et discrimination vont de pair.
Oui, parce que quand on vit dans la pauvreté, comme vient de le dire Michel Pouzol, on se cache des autres et... comment vous dire ?
Il y a ce sentiment de honte.
Il y a ce sentiment de honte et ce que je veux vous dire, c'est peut-être la phrase de cette personne que j'ai croisée ces jours-ci qui disait « pour vivre dignement, il faut pouvoir sortir dans la rue sans avoir honte de soi ». Vous vous rendez compte? C'est quand même incroyable. Alors qu'en fait, quelle est la honte de soi? C'est simplement que on a trop de difficultés au quotidien pour pouvoir manger 3 repas par jour, donner à manger à ses enfants 3 repas par jour, pour pouvoir payer les affaires pour son enfant pour aller à l'école, pour pouvoir aller à la sortie scolaire. Enfin, voyez toutes les difficultés du quotidien qui s'ajoutent les unes aux autres, qui font qu'au bout d'un moment, on se sent retiré de tous et en tout cas exclu de tous parce qu'on est obligé d'aller chercher des aides. On est obligé de tout le temps aller demander. Et ça, c'est insupportable.
La pauvreté, vous le disiez, c'est la faim, la difficulté à se nourrir. C'est le logement, c'est quoi d'autre ?
C'est le cumul de précarité, comme disait Joseph Rzinski dans un rapport au Conseil économique et social en 87. C'est le cumul de précarité, donc c'est des problèmes de santé, de logement, d'emploi, de travail, de ne pas avoir de travail ou avoir un travail très précaire. C'est des problèmes pour l'éducation de ses enfants. Voilà. Et ce cumul de précarité, quand il devient trop important, on appelle ça la grande pauvreté. Est-ce que vous me permettez, pour nos auditeurs, de dire ce... Avec quoi on vit en France quand on dit qu'on est pauvre? C'est que l'on vit avec moins de 1 000 euros par mois, par personne.
Ce seuil de pauvreté.
C'est le seuil de pauvreté, 1 008 euros. Et quand on vit dans la grande pauvreté, ce qui est quand même le cas de millions de personnes dans notre pays.
14% de la population,
attention.
Je disais.
Donc 9 millions de personnes vivent dans la pauvreté et plus de 4 millions dans la grande pauvreté. Et la grande pauvreté, c'est vraiment avoir ce cumul de précarité ensemble et c'est vivre avec entre 0 et 500 euros par mois. En France.
En fonction des aides et des minima sociaux. Michel Pouzol, quand il vous est arrivé votre descente aux enfers, descente dans la pauvreté, si je peux le dire comme ça.
J'ai jamais été dans la richesse avant, hein, parce que ça aussi, il faut. C'est une idée reçue qu'il faudra déconstruire, et moi, je ne veux pas être le porte-parole de cette idée reçue. Tout le monde ne tombe pas dans cette grande pauvreté, et il y a déjà des signes avant-coureurs. Moi, j'ai toujours une vie très difficile, très hachée, très déstructurée, qui a effectivement l'incident qui arrive précipite la chute. Mais parce que tous les autres déjà, j'ai pas les autres, je dirais protections, on sont déjà tombés. Mais vous parliez tout à l'heure sur le revenu. Nous, on était une femme, 2 enfants. Une femme enceinte, et on était à 700 euros par mois, effectivement.
Vous bénéficiez notamment du RMI à l'époque.
Oui. Avec ce RMI, ça, c'est pas très simple.
Mais avec ce RMI, est-ce qu'on vit? À vous entendre,
non. Alors, on ne vit pas, on survit.
Mais déjà, il faut obtenir. Moi, j'ai mis 4 mois à obtenir le RMI. Parce qu'il y avait un papier que je ne comprenais plus. Je ne savais pas ce qu'on me demandait. Et il a fallu qu'un type devant un guichet, parce qu'il m'a vu pleurer à 40 ans pour devenir RMiste, disent « Monsieur, on va trouver une solution, vous inquiétez pas. » Mais quand vous sortez d'un guichet de la CAF à 40 ans, et que vous pleurez, pas pour devenir je ne sais quoi, mais pour devenir simplement RMiste, alors effectivement, le sentiment de honte qu'on a, on l'a marqué au fer rouge. Et moi, je le dis aussi, parce que c'est important de le dire maintenant, ce sentiment de honte, je l'ai toujours en moi. C'est toujours une blessure que j'ai aujourd'hui. Et quand les gens me disent « Mais tu dois être fier d'être à l'Assemblée nationale avec tout ton parcours », je leur dis « Non, pourquoi je serais fier ?» Si je suis fier, je suis pas un peu fier quand même, mais si j'étais fier de ça, j'aurais honte de l'homme que j'étais et qui est le même dans ce cabanon quand il avait tout échoué. Et ça aussi, c'est très important de pouvoir retrouver sa dignité à soi-même, dans sa propre image.
Alors, vous le disiez, des difficultés à obtenir le RMI, ça veut dire un maquis de dispositifs de minima sociaux. Il en existe 10 en France. On ne s'y retrouve pas. D'où peut-être, sans doute, Marie-Alette Grard, le problème à obtenir une aide.
Très complexe. Le système des minima sociaux en France est très, très complexe. Ils sont exactement, aujourd'hui, 9, les minima sociaux. Mais 30% de personnes qui pourraient recevoir le RSA, donc ça veut dire qu'ils n'ont rien pour vivre, ne le demandent pas. parce que c'est trop compliqué. Un dossier de RSA, comme disait Michel Pouzol, c'est infernal. C'est non seulement compliqué, mais c'est en plus très intrusif sur votre vie. Et franchement, il faut qu'on arrive à simplifier ces choses-là. On n'a pas besoin de savoir qui était votre compagnon ou votre compagne il y a 5 ans, il y a 3 ans, pour pouvoir toucher 500 euros par mois, ce qui n'est pas vivre, ce qui est survivre. Hein. Avec le RSA, vous ne pouvez pas vous nourrir correctement pour un mois avec votre famille.
9 minima sociaux, ça veut dire qu'on fait, que la France fait, essaye en tout cas, mais qu'on fait mal.
Mais qu'on fait mal. Qui vont de 100 et quelques euros par mois à 808 euros pour la AAH, pour les personnes handicapées.
Donc aujourd'hui, le RSA, auparavant le RMI, ne permettent pas de sortir de ce seuil de pauvreté et de remettre un pied peut-être dans l'emploi. Est-ce que le marché de l'emploi est le point de décrochage que l'on évoquait et celui par lequel on peut remettre le pied à l'étrier, Michel Pouzol?
Oui et non. C'est-à-dire pas uniquement. Bien sûr, c'est très important, mais ça ne suffit pas. Ce que vous disiez sur les minima, c'est important, et sur les dispositifs. Aujourd'hui, quelqu'un qui est au RSA ou moins au RMI, on se doute qu'il va avoir droit à la CMU complémentaire. On se doute qu'il a besoin d'APL. On se doute qu'il a... Pourquoi simplement on ne fait pas tourner des dossiers plutôt que de faire tourner des individus qui répètent à longueur de journée la même histoire, qui en général est une histoire violente, qui est une histoire... traumatique, qui est une histoire dont on n'est pas fier, qui renforce la honte. Et on est confronté à ça en permanence. Donc c'est vrai que j'avais fait un défi à des gens de cabinet ministériel en leur disant, voilà, juste avant les vacances de Noël, je raconte toujours cette anecdote, en leur disant, voilà, je vous propose un défi. Vous allez prendre un dossier de RSA, un dossier de CMU complémentaire, un dossier de surendettement, un dossier de demande de logement, et je ne sais plus quel cinquième j'avais dû trouver, et je dis, voilà, vous allez les remplir en même temps, et un dossier d'inscription à Pôle emploi. Et vous allez découvrir deux choses. Un, que les vacances de Noël vont être beaucoup plus courtes que ce que vous pensiez, et deux, que si vous trouvez quelqu'un qui est en capacité de le faire, vous allez l'embaucher dans votre ministère parce que c'est un génie. On a un système qui est d'une complexité incroyable pour des gens qui ne sont pas à même d'affronter déjà leur situation réelle, quotidienne, parce que c'est la dureté de vivre dans ces conditions-là. Et on crée des dispositifs qui sont d'une complexité ultime. Et donc, on est en totale inadéquation avec la volonté, enfin le but recherché.
Alors, est-ce que cela veut dire que si on s'intéresse d'abord, entre guillemets, aux conséquences de la pauvreté plutôt auparavant, aux causes à combattre, Marie-Alette Graff?
Eh bien, vous avez tout à fait raison. Et il y a aussi une chose qui manque grandement dans notre lutte contre la pauvreté et la grande pauvreté dans notre pays, c'est de prendre en compte les pensées, les savoirs des personnes qui vivent dans la pauvreté. Si on les écoutait, si on réfléchissait avec elles ces politiques de lutte contre la pauvreté, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là. Alors je veux vous dire autre chose sur l'emploi là, parce qu'on parlait de Pôle emploi, de est-ce que les personnes, d'abord démonter cette idée reçue d'imaginer que les personnes au RSA ne veulent pas rechercher d'emploi. Elles veulent toutes un emploi. Elles rêvent toutes d'avoir un travail qui permette de faire vivre dignement leur famille et qui leur permette de retrouver ce statut vis-à-vis de leurs enfants, vis-à-vis de la société, d'avoir un statut...
Sortir de l'assistanat.
Et puis, quand même, vous dire aussi une autre chose, parce que on entend trop parler ces temps-ci des responsables de département dire que voilà, ils ne veulent vraiment pas s'inscrire à Pôle emploi, que vraiment ces personnes traînent à vouloir s'inscrire à Pôle emploi. Mais vous savez, il y a une sorte de discrimination dans notre pays. Pour s'inscrire à Pôle emploi, si vous êtes ingénieur et que vous êtes au chômage, vous êtes reçu par une personne de Pôle emploi. Si vous êtes avec très peu de qualifications, vous n'êtes pas reçu par une personne à Pôle emploi. Vous avez un répondeur téléphonique. D'abord, vous devez avoir un téléphone, parce que vous devez appeler un répondeur téléphonique qui va prendre en compte vos noms, prénoms, et si jamais vous avez un accent, si jamais vous avez des problèmes d'élocution, si vous manque quelques dents parce que vous n'avez pas pu aller vous faire soigner les dents chez le dentiste comme tout le monde, eh bien, vous êtes radié de Pôle emploi.
Parce ça veut dire que les conditions d'accès aux aides, au chômage, et même après à ces aides, sont aujourd'hui trop restrictives?
Non seulement elles sont trop restrictives, mais elles sont beaucoup plus pénalisantes. Moins vous avez d'argent et plus vous êtes pénalisé pour obtenir des soutiens dans votre vie.
Alors dès lors, que faire? C'est la question qui se pose. Vous l'évoquiez tout à l'heure, Michel Pouzol. Sans doute repenser les minima sociaux. Le candidat Benoît Hamon, candidat socialiste, socialiste de la gauche à la présidentielle préconise la mise en place d'un revenu universel. Est-ce que c'est, selon vous, une des solutions?
C'est une des pistes de développement. Le revenu universel peut être une arme pour lutter contre la très grande pauvreté, notamment, mais ça ne suffira pas en soi. Ce n'est pas que ça, le revenu universel. C'est un autre débat, mais c'est aussi une manière de repenser sa propre existence vis-à-vis de sa propre vie, de son propre travail, et de redonner la liberté. Oui. Donc c'est pas et la pauvreté, encore aussi une fois, je voudrais le dire, parce que c'est important, si je peux faire passer quelques messages, ça ne se résume pas au manque de travail. Parce que les agriculteurs pauvres existent, parce que les jeunes en formation pauvres existent, les retraités pauvres existent, et 8 millions de pauvres en France. Ça veut dire qu'il existe, il y a plus de Français qui vivent en pauvreté qu'en région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est la deuxième région de France.
Marie-Alex Grave, justement, vous, votre position sur ce revenu universel, est-ce que vous partagez cette idée? Est-ce que c'est une bonne chose, une bonne solution?
Écoutez, si ça peut permettre aux personnes les plus pauvres de mieux vivre, oui, c'est une bonne solution. Notre grande inquiétude, c'est que les plus pauvres y perdent encore davantage. C'est bien là notre grande inquiétude. Juste une chose, ils perdent davantage parce que dans certains projets de revenu universel, il y a ce revenu à 600, à 800 euros et il n'y a plus l'aide au logement, il n'y a plus les allocations familiales. On enlèverait tout pour tout remettre à 800 ou à 600 euros. Ça rognerait les autres. Je veux quand même vous préciser une chose, c'est qu'actuellement, le RSA, il est à 535 euros. Mmh. Mais en fait, en moyenne, les personnes qui sont au RSA touchent 350 euros. Elles ne touchent jamais, pratiquement jamais, le RSA dans sa globalité. Parce que l'APL, l'aide au logement, vient en enlever une partie, parce que une autre aide vient en enlever une autre partie. Donc, il s'agit pour moi, surtout, d'avoir un revenu minimum décent qui soit un vrai socle garanti et dans la durée pour les personnes.
C'est ce que propose par exemple le think tank Terra Nova,
Michel Pouzol. Oui, je voudrais quand même juste préciser que la vision que nous portons, et là je la porte vraiment conjointement avec Benoît Hamon du revenu universel, n'est pas la version défaitiste dont vous parliez, qui est une version très libérale. Nous ne sommes pas pour un solde de tout compte, contrairement à ce que certains voudraient imposer. Nous sommes pour un revenu universel en dynamique qui va permettre notamment, par exemple, de personnaliser les aides. Quand vous êtes un couple, ben vous touchez pas deux fois le minimum RSA.
L'individualisation
par exemple qui est essentielle. Donc pour vraiment que sur un couple on puisse avoir un vrai
aujourd'hui
effet levier.
On touche au nom de la famille.
Exactement. Et donc bien sûr les aides qui vont avec, elles seront toujours nécessaires, les accompagnements seront nécessaires vers l'emploi, ils seront toujours nécessaires. Donc nous dans notre vision du revenu universel, il n'est hors de question de toucher à ce genre de choses. On veut aller vers une société du mieux-être, pas vers une société où les plus en difficulté se retrouveraient encore une fois, je dirais, dans une autre difficulté supplémentaire.
La grande urgence, c'est les jeunes.
Oui.
C'est d'accompagner les jeunes dans une formation, dans leur projet de vie, leur projet de formation qu'ils souhaitent faire. Ça, c'est vraiment la grande urgence.
Pour ça, Marie-Alette Grard, faut-il aussi davantage s'appuyer sur les expériences de terrain, les associations, puisqu'on le voit,
bien sûr,
les politiques.
Expérimentons sur des territoires pour voir si c'est réalisable sur tout le territoire français. Mais expérimentons sur des territoires. Oui, ça, on est vraiment...
L'expérimentation, je ne veux pas que Benoît Hamon veut faire, elle est effectivement sur une tranche d'âge des 18-25 ans, parce que ça, on peut le financer, on sait le faire aujourd'hui. Donc c'est une question de volonté. Vous savez, Victor Hugo, il y a 150 ans, disait, il faut éradiquer la pauvreté dans ce pays-là. Eh bien moi, je pense qu'aujourd'hui, on est en capacité de le faire. Nous en sommes capables. Et Victor Hugo disait aussi, rien n'est plus fort qu'une idée quand son temps est venu. Et je pense que le temps de se battre vraiment contre la pauvreté est venu.
Mais ça ne passe pas que par le revenu universel, aussi la politique du logement, la politique
bien
de
sûr.
La ville, tout ça.
Et ça passe aussi par chacun de nous. Parce que chacun de nous peut faire quelque chose pour changer des choses dans notre société, pour changer le quotidien de ceux qui ont la vie si difficile. Un regard, une attention, c'est déjà un bon début.
D'où l'initiative d'ATD Quart-Monde à agir ensemble. C'est déjà la fin de ce débat. Merci beaucoup, Marie-Alette Grard d'ATD Quart-Monde, Michel Pouzol, député socialiste, d'avoir été avec nous ce soir. C'est donc la fin de ce débat à la réalisation. Olivier Roux, demain, pas de débat pour cause de foot, la Ligue des Champions entre le PSG et le Barça. On se retrouvera mercredi pour un autre débat. Très bonne soirée à tous à l'écoute de la Radio du Monde.